Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous.
Bonjour, Benjamin Kadhafi. Ça va bien, ça faisait longtemps encore une
fois. Ce rythme de publication un peu erratique à cause de du mois de mai. C'est à cause de lui, c'est pas notre faute.
Voilà, vraiment. C'est à la fois trop de travail et trop de pont.
Mais on vous a pas laissé tomber. La semaine dernière, on vous a proposé un Sœur d'émission avec Rémi Lopez, qu'on a accueilli dans nos locaux pour vous parler de Vagrant Story. Et précédemment,
ouais.
FF12.
Donc, ouais, on a eu plein de retours, je trouve, sur ces podcasts. Les gens étaient super contents. Ouais. Ça fait plaisir.
Voilà, donc Vagrant Story, si vous voulez en savoir plus, il y a ce podcast et il y a même un bouquin. On vous en parlera peut-être en fin d'émission. Nico, j'espère que t'es motivé parce que c'est toi qui vas ouvrir l'émission par un gros sujet qui est sur un certain Microsoft, Xbox, il se dit des trucs.
C'est vrai, mais avant, je voulais faire un retour sur...
Ah oui. Mais non, attends, c'est pas comme ça que ça se passe.
Ah oh?
Mais non, parce que je crois qu'il y a le programme, là.
Ah, là, tu
vous retrouverez sur le sommaire.
Écoute,
vous
retrouvez, parce qu'après,
ça,
l'habitude.
Vous retrouverez bien entendu l'interview top 3, mais avant, retour sur l'émission.
C'est ma faute. Ah oui, effectivement, on va parler de Microsoft. De toute façon, bah, écoute, je devais parler de Top Spin à la base, le dernier Top Spin, mais vu tout ce qui s'est passé chez Microsoft, je t'ai dit, on peut pas ne pas en parler, voilà, toutes les histoires de licenciement, fermeture de studio et tout. Donc, ça fait l'occasion, alors ce sera pas que focalisé sur Microsoft parce que c'est pas les seuls méchants là-dedans, mais faire un point sur cette industrie. On l'a abordé récemment sur plein d'émissions par plusieurs biais en fait, mais là c'est le côté vraiment le facteur humain en fait qui commence à être pris au dépourvu, quoi.
Ouais, carrément, ça va être un gros morceau. Peut-être que tu nous parleras de Top Spin. Moi j'ai envie que tu nous parles de Top Spin, peut-être la semaine prochaine, qui sait,
peut-être.
En seconde partie d'émission, on va un petit peu déstresser, rigoler avec un jeu qui s'appelle Another Crab's Treasure. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous connaissez, dispo sur le Game Pass. En tout cas, restez jusqu'à la seconde partie de l'émission pour un petit peu rigoler. Vous retrouverez, bien entendu, l'interview de Top 3. Mais avant, c'est la rubrique retour sur non pas sur l'émission de la semaine dernière, mais sur un événement qu'on a vécu hier. Un reveal d'Ubisoft qui nous a enfin montré Assassin's Creed Shadows, l'Assassin's Creed qui enfin prend place dans le Japon féodal, dans l'ère Edo et la guerre des daimyo, les shoguns et les bagarres.
Le mec a bossé, quoi.
J'ai fait japonais à la fac, tu me parles pas, moi. Bon, on l'attendait, on l'a eu.
On n'est pas trop surpris parce que voilà, le jeu avait déjà été teasé avec c'est l'ancien code Nemred, effectivement. Alors, je vais être clair, moi j'attends le jeu, je suis super chaud et tout, ça va être cool. Là, je vais être un peu chafouin parce qu'il faut toujours être un peu, surtout vous en m'écoutant, vous allez dire mais il est relou, il a même pas vu de gameplay encore, d'où il critique déjà.
C'est vrai qu'on n'a pas vu de gameplay.
Vous avez raison. C'est juste un petit voilà, le petit sentiment, c'est vrai que j'ai eu passé le trailer, j'ai eu passer des artworks et tout, et je me dis putain, si tu me cachais le Assassin's Creed en fait, j'ai l'impression que ça serait random jeu monde ouvert du Japon, quoi.
Qu'est-ce qui te manque?
Eh ben, il manque le côté un peu assassin. Alors, on sait
le
que
look
Ubisoft de... Québec, qui avait déjà fait Odyssey, qui s'éloignait déjà pas mal de ce côté-là.
Carrément.
Mais, déjà, bon, le héros, un samouraï, bon, c'est pas un costume d'assassin. Et donc, l'héroïne, un ninja, pour le coup, je trouve, elle a pas ce côté classe des costumes d'assassin qu'on retrouve habituellement. Alors, c'est que sur un artwork où je me base, encore une fois.
Mais ça suffirait pour qu'on puisse discerner le costume des assassins, donc, je pense que c'est forcément fait à dessin, qu'il n'y ait pas sur la capuche, tu sais, le petit bout d'aigle. Ouais. Donc d'ailleurs, on a appris qu'il n'y aurait pas d'aigle ni d'oiseau pour nous accompagner. C'est, je pense, hyper volontaire de s'éloigner comme Québec l'avait fait sur Odyssée.
Ouais, mais c'est vrai qu'on a vu des artworks où tu n'avais pas le crest, là, le fameux logo en fait qu'on connaît Assassin. Et sur ces artworks-là, ça m'a fait, c'est là où ça m'a sauté au visage. C'est vrai que tu l'as dit, la série s'était largement éloignée de certains de ses piliers de base il y a quelques années, mais tu avais toujours ce côté. Assassin's Creed, c'était une destination des paysans, tu vois, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans le jeu vidéo. Là, le fait est que il passe après Ghost of Tsushima, il passe après Rise of the Ronin. Tout le monde savait que, enfin, tout le monde demandait un assassin au Japon, évidemment, comme d'hab, Ubisoft a attendu que tout le monde le double pour se décider à le faire, quoi. Donc,
ah, c'est le timing est pas
un petit peu dommage. Je doute pas que le jeu sera très très bien et je serai au rendez-vous en fin d'année. Voilà, c'était juste pour histoire d'être relou deux minutes là-dessus. Quoi.
Et pour aller un peu, allez, je continue. Moi, je suis aussi très très motivé, mais comme on s'y attendait, c'est un jeu qui a l'air d'avoir un scope équivalent à Valhalla et la précédente trilogie antique, tout ça, avec des gros jeux qui font 80 heures,
qui
sont massifs.
Voilà, c'est espérant qu'il se répétera pas, qu'il sera varié, qu'il sera.
Ouais. Nous, on l'avait quand même plus ou moins dit, et comme la plupart des gens qui suivent la série, Mirage était une parenthèse, que ça soit en termes de budget ou en termes de ambition. C'était pas l'idée que Red, donc Shadows là, qui était déjà en production depuis des années, n'allait pas prendre le pli de Mirage, même s'il a été fortement apprécié, que les joueurs ont aimé le fait qu'il soit un peu plus court, un peu plus ramassé. C'était sûr et certain, de toute façon, que la production était déjà lancée depuis longtemps. On est sur un gros Assassin's Creed, l'Assassin's Creed de la nouvelle génération. La pression, elle est énorme sur Québec et même sur Ubisoft, qui sur ce jeu va jouer énormément. Donc moi je suis déjà content qu'il soit pas décalé, tu vois. Moi je me suis dit, est-ce que vraiment ils vont réussir à tenir ce Noël là et repartir sur un rythme annuel, un rythme qui n'a pas toujours été apprécié. On a pu être saoulé d'avoir ce Assassin's Creed tous les ans, mais moi je suis j'ai hâte d'avoir un gros assassin.
Voilà, j'ai l'impression qu'il y a la série retrouve un peu sa place en termes, tu vois, les excitations de fin d'année, le gros jeu de fin d'année. Pour peu, c'est vrai qu'on a une année 2024 pour l'instant qui est pas ouf niveau sortie. Pour peu que la fin d'année soit du même acabit et qu'Assassin se retrouve le gros jeu de fin d'année, ça peut être tout bénef pour lui aussi.
Ils peuvent faire leur place 15 novembre au passage.
15 novembre, ouais. Et certainement qu'on accompagnera ça comme il faut. Nous,
ouais, de notre côté, quoi. On va faire ce qu'il faut. Juste petite crainte, tu l'as dit, il passe après Rise of the Ronin, il passe après surtout Ghost of Tsushima parce que j'ai pas fait le second jeu, mais ils ont beaucoup de pression dans le sens où ils ont deux gameplay avec deux personnages principaux et le personnage samouraï, c'est lui qui fatalement va être comparé aux sensations manette en main des précédents jeux. Et Tsushima avait certains défauts, mais je trouve qu'il avait pour lui un système de combat qui était hyper véloce, hyper
Qui était solide,
qui était solide et qui était hyper attractif. Moi je trouve qu'Assassin's Creed a toujours eu un système avec beaucoup d'inertie, surtout dans les derniers jeux avec Valhalla, avec des personnages qui sont massifs, qui ont quand même, on sent leur poids. Là, le personnage qui joue samouraï, désolé, j'ai bouffé son nom, je l'ai pas, mais qui fait 2 mètres, qui
ouais, est, il te le montre comme le gros bourrin dans le trailer, quoi.
Je pense que il y a quand même grave de boulot pour proposer un système d'infiltration avec le personnage ninja, un personnage masculin samouraï qui lui il va être un gameplay de combat. Il y a beaucoup à faire quand même. Donc moi, j'ai vraiment hâte. J'ai pas peur pour eux, mais bon, Québec.
En tout cas, curieux aussi, c'est censé être le premier projet dans le portail Infinity, donc on n'a pas vu grand chose. Et aussi la méta-histoire, voir qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, dans quelle direction ils vont aller, quoi. Ce sera les deux. Enfin, ça intéresse pas grand monde, ça, mais nous, oui, quoi.
Et le samouraï n'est pas un templier, en tout cas, ça n'a pas été dévoilé, mais j'attendais beaucoup de ça. Moi, je me suis dit, allez, un ninja assassin, un templier, samouraï, puis de retrouver cette confrontation un peu frontale, tu vois, qui a fait un peu aussi la signature de la série. On sait pas, en tout cas, on n'en sait pas beaucoup, on a vu zéro gameplay. Nous, on est très chaud. Est-ce que vous voulez être? N'hésitez pas à nous le dire. On sera en place le 15 novembre pour vous parler de ça dans Red Alert et voire même ailleurs. Mais ça, il faudra attendre quelques révélations qui devraient arriver, attention, sous peu. Nico, tu prends tes notes?
Je prends mes notes.
Le gros dossier, c'est maintenant. On commence avec la première chronique et tu vas nous parler de Microsoft, Xbox et tout ce qui s'est passé récemment.
Entre autres, ouais, parce que souvenez-vous, en fin d'année dernière, Xbox a obtenu le feu vert pour le rachat d'Activision Blizzard. Et à ce moment-là, on s'est dit, le géant, il a toutes les cartes en main, mais le plus dur restait à venir. On avait même fait une chronique dans Red Alert 121 en posant la question, et maintenant, c'était un peu, on l'imaginait, un nouveau point de départ pour un nouvel Xbox qu'on sentait conquérant, qu'on sentait avoir les munitions pour. Et là, en fait, patatras, c'est-à-dire que depuis d'une manière totalement surprenante, depuis le début de l'année, en fait, Xbox s'est mis à détruire méthodiquement et brique par brique toute la réputation et la confiance, en fait, qui entretient auprès des joueurs et auprès de ses partenaires. Alors que cette confiance, c'est vrai que ça vient beaucoup de la période dorée de l'Xbox 360 qu'on a tous gardé avec en nostalgie. Et c'est cette période qui nous avait dit, Xbox a peut-être sa place dans le jeu vidéo, contrairement à ce qu'on imaginait à la base. Mais depuis, c'est un truc de ouf. On dirait qu'ils attendaient vraiment le rachat pour avoir balancé toutes ces mauvaises nouvelles. On voit qu'on a quand même eu 1900 licenciements dans la branche gaming. Malgré l'annonce de résultats financiers dans la foulée qui était exceptionnelle, des exclus qui deviennent multiplateformes. Perso, moi, ça me défrise pas, mais pour les fans de la marque, ça a dû les décevoir un petit peu. Des déceptions au niveau des ventes de consoles et du Game Pass, les ventes de consoles qui petit à petit s'érodent, ce qui peut être vu comme quelque chose de pas forcément anormal dans le sens où Microsoft t'incite à jouer ailleurs sur ta console, mais le contrepoint à ça était que c'était censé se transformer en abonnement Game Pass qui stagne en fait, tout bêtement, alors que il y a quand même eu les cartouches Starfield, les cartouches Halo Infinite, enfin.
Ça, on en avait parlé dans une émission, c'est beaucoup conditionné aussi aux ventes de consoles, et comme les ventes de consoles,
c'est galère, un peu vicieux.
Tout ce qui est xCloud, là, ils ont du mal à le mettre en place. Là, l'ouverture du portail mobile, ils cravachent comme ils peuvent, mais il y a un plafond de verre.
Et donc, récemment, l'annonce de la fermeture de 4 studios, c'est ça qui a un petit peu créé l'émoi, on va en parler tout de suite. Parce qu'évidemment, là, je mets quand même des balises, on va parler des événements survenus chez Xbox la semaine dernière, mais l'idée n'est pas de dire c'est eux les méchants de l'histoire, parce que c'est pas forcément le but, parce qu'on va évidemment ouvrir un peu en termes d'industrie. On va parler de Sony aussi, qui mine de rien a aussi fait des annonces qui allaient plutôt dans le même sens que Xbox, mais comme d'hab, Sony, ils savent mieux enrober les choses, ils savent mieux vendre les choses. On parlera aussi peut-être un peu d'Embracer, qui a été un cas d'école là-dessus, de la parole qu'on peut attendre de ces dirigeants-là et de voir comment ils, quelle vision ils peuvent avoir pour le futur du jeu vidéo. Mais c'est le but de cette chronique, c'est vraiment faire un peu un tremplin pour s'interroger sur la place de l'humain dans l'industrie, tu vois.
Okay.
De sa mise en avant ou de sa mise en retrait, justement, et qu'est-ce que ça peut apporter, ce que ça peut changer pour l'industrie au global, quoi. Donc, pour revenir sur les événements, c'est les fermetures annoncées donc d'Arkane Austin, le studio, de Tango Gameworks, d'Alpha Dog Studio et de Roundhouse. Donc, ces deux derniers, ils vont être intégrés, absorbés par ZeniMax Online, donc pour être participer au développement de Elder Scrolls Online. Mais Tango Gameworks et Arkane Austin, eux, bam, voilà, c'est shutdown. Et ça a suscité un fort émoi parce que, déjà, c'était la goutte de trop, je pense, d'un vase qui était bien rempli. Hein, on voit depuis plusieurs années, ben, les licenciements, ça n'arrête pas. Et il me semble aussi c'était deux studios appréciés des joueurs, en fait. Et dont l'un, responsable de Hi-Fi Rush, évidemment, l'un des seuls gros succès critiques de Xbox de ces dernières années, on va dire.
C'est vrai.
Qui a eu vraiment des meilleures notes, même que les gros jeux attendus, comme Starfield et
oui,
tout.
Oui.
Et aussi un jeu qui a su tirer son épingle du jeu, par exemple, au Game Awards, hein, qui a apporté des prix. Et c'est pas souvent que Microsoft gagne des prix dans ce genre d'événement, quoi. Faut savoir que Microsoft, il n'avait pas fermé de studio depuis 2016 et Lionhead, rappelle-toi, ça c'était un peu ce qu'on appelait l'ancien Microsoft, tu vois, et Lionhead, c'était le studio de Peter Molyneux, qui est responsable des Fables et tout. Et depuis, on a vu ce discours des dirigeants en mode Nicolas Sarkozy, tu vois, j'ai changé, j'ai compris de mes erreurs et tout. Et en fait, on se rend compte, 10 ans après, qu'ils reviennent au même point. Faut comprendre quand même une chose qui est la base, hein, de pour cet énervement aussi, c'est que Xbox appartient à Microsoft, hein, qui est aujourd'hui la société avec la plus grosse valorisation en bourse au monde. C'est-à-dire que c'est la société la plus riche du monde.
Plus devant, qu'Apple. Okay.
Devant Apple. Ah, okay. C'est pour leur bilan financier pour le dernier trimestre 2023, donc octobre, novembre, décembre 2023. On parle de 62 milliards de chiffre d'affaires et 22 milliards de bénéfices. 22 milliards en 3 mois.
C'est pas mal.
C'est-à-dire que on en parlera plus tard. Sony a fait 25 milliards de chiffre d'affaires sur une année. Là, on parle de 22 milliards de bénéfices. Donc, d'argent que tu gagnes à la fin, en fait. Oui.
Tu parles de Microsoft.
Là, je parle de Microsoft. Mais voilà, donc ça remet en perspective aussi, quoi. C'est pas une question de thunes, en fait, quoi. Donc, pourquoi fermer ces studios? La question se pose, hein. Selon les déclats officiels, c'est pour prioriser les titres à plus fort potentiel. On sent qu'ils veulent se focaliser sur Halo, sur Gears, sur Fallout, sur, voilà, les noms vendeurs. Pourtant, le lendemain de ces annonces de studio, on a eu une indiscrétion, voilà, qui déclarait que, on a eu un verbatim de Matt Booty, donc le boss des Xbox Game Studio, qui a dit que le Xbox avait besoin de jeux plus petits, qui donnent du prestige, qui sont capables de gagner des awards. Et là, on est tous évidemment tombés de chaise parce que ça correspondait parfaitement au profil de Tango et de Hi-Fi Rush. Donc, on voit que c'était un petit peu du bullshit, ce genre de raison, quoi. La vérité, là aussi, à ce qui semble, hein, c'est qu'ils ont fermé ces studios parce que c'était des studios qui étaient entre deux projets. À savoir qu'il y avait déjà livré un jeu il y a quelques temps et qu'il n'avait pas encore enclenché le développement du suivant. Donc, ça aurait été moins préjudiciable à Xbox, je mets des guillemets, hein, parce que tu n'étais pas en train de tuer un jeu, donc c'était pas, tu venais pas aller contre l'alimentation de ton catalogue en jeu, quoi. Et là, évidemment, la question, c'est que tout le monde se demande qui sera le prochain à subir ce genre de situation. Parce que là, je pense qu'on a, chez Double Fine, par exemple, ça doit un petit peu claquer des dents, parce qu'on sait que c'est pas un studio qui est là pour sortir du blockbuster.
Non.
Xbox les a achetés en ayant conscience de ça. Ninja Theory aussi, sont en train de terminer leur jeu, donc Hellblade, qui sort la semaine prochaine à l'heure où on enregistre. On sait que Tammy Mantonides, qui était vraiment l'âme créative du studio, il a quitté Ninja Theory un petit peu en catimini, on sait même pas quand ça remonte. Ça rappelle un petit peu la situation avec Mikami chez Tango, finalement, le fondateur, l'âme, le porte-étendard qui quitte le studio, et quelques mois, années plus tard, tu te dis, pourquoi je garderai Ninja Theory s'il n'y a plus l'âme créative derrière? On se pose la question, surtout que, bon, on en a parlé, mais la communication autour de Hellblade, elle est quand même pas vraiment au top. Comment ça va se passer si le jeu se plante? Comment tu peux juger aussi du succès d'un jeu, vu que ça va être un jeu dispo dans le Game Pass? C'est un jeu qui est annoncé comme pas long. Est-ce que ça va générer des abonnements? C'est même pas certain, mais je pense que Microsoft, là aussi, est au courant depuis le début, là. Donc, comment tu juges du succès de Hellblade 2? Et comment tu peux réussir après à venir plaider pour le studio si Microsoft décide de le tuer, quoi? Donc, ça, c'est quand même un sujet un petit peu délicat, quoi.
C'est toute la complexité, et moi, c'est l'une de mes plus grandes incompréhensions. C'est que tu dis que c'est pas une question d'argent de façon effective, mais en fait, c'est juste que Microsoft, ils ont des objectifs au sein de Microsoft, ils ont des objectifs au sein de Xbox, et si ces objectifs ne sont pas atteints au sein de sous de chaque sous-section, ben en fait ils coupent, ils cherchent pas à comprendre ces grandes corporations comme Google, enfin les GAFAM. Regardez Google Stadia, ils ont laissé le truc quelques semaines, ça n'a pas atteint les objectifs, ils ont coupé net. En fait, il y a zéro sentiment, c'est juste des objectifs. Et en fait, j'abonde à 2000% dans ce que tu dis, c'est que moi j'ai du mal à comprendre comment eux, en fait, ils établissent ces objectifs. Parce qu'aujourd'hui, dans des dans un catalogue qui est disponible en partie sur un bouquet, on va dire, façon Netflix, c'est des audiences, c'est des retentissements. Est-ce qu'ils vont juger l'audience que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, une partie de vente ? En fait, moi, j'arrive pas du tout à comprendre comment eux mesurent ça. Ouais. Et ça, vraiment, moi, c'est, enfin, j'ai plus rien à dire parce que je comprends pas. Et comme toi, je sais pas, en fait.
Ouais, mais c'est vrai qu'on a eu un débat à la rédac sur Hellblade 2, son importance présumée au sein de Microsoft. Et c'est vrai que certains trouvaient que Hellblade, c'est pas forcément un gros nom. Et c'est vrai, et ça vend pas, c'est pas un projet qu'il a pour vendre des millions. Mais c'est vrai que c'était un projet qui était intrinsèquement, quand même, lié au destin de la Xbox Series X, étant donné que c'était un jeu qui était annoncé en même temps que la console, et qui avait ce côté aussi porte-étendard du jeu action solo, avec
des
ouf, qui avait quand même, qui était quand même un minimum attendu auprès d'une frange hardcore de joueurs, pas du grand public, là-dessus, on est vraiment d'accord, quoi. Alors, perso, j'avoue, moi, je suis pas spécialement attaché à la marque Xbox, mais, comme beaucoup, tu vois, j'avais apprécié l'Xbox 3, l'époque Xbox 360. Et qu'on soit d'accord ou pas, je trouvais leur stratégie, en fait, depuis vraiment l'arrivée de Phil Spencer à la tête du groupe, intéressante. Donc vraiment, qu'on soit d'accord ou pas avec la philosophie Game Pass, avec la volonté de mettre leurs jeux sur un maximum d'écrans, ou bien de faire de la vente de hardware une donnée un petit peu de l'ancien monde, je trouve qu'il y avait au moins une perspective, une volonté. Ça marche ou pas, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, il y a quelque chose derrière, tu vois. Il y a un plan, il y a une idée. Et c'est ce qui semblait être le cas. Et en fait, on se rend compte finalement là aussi qu'il naviguait un petit peu à vue à la sortie des déclarations qu'on entend, quoi. C'est-à-dire que même aujourd'hui, après... je sais pas, plus des mois et des mois de lutte pour acheter Activision Blizzard, donc ils avaient le temps de se préparer, de réfléchir quand même à ce qu'ils voulaient faire de la boîte, on se rend compte qu'il y aurait des hésitations encore en interne pour savoir si oui ou non Call of doit intégrer le Game Pass dès le lancement. Au-delà d'aller contre la promesse de Microsoft si c'est pas le cas, c'est tu te rends compte qu'ils ont toujours pas pris de décision alors que enfin ils ont dépensé 70 milliards pour acquérir Call of Duty, ça restait quand même l'un des principaux arguments là-dessus, quoi. Et ça, on peut se dire, mais en fait, ouais, quelle est votre vision, quelle est en quoi vous croyez, quelle est votre perspective là-dessus, quoi. Et ils sont même pas décidés, quoi. Donc au cumul, moi, c'est vraiment l'hypocrisie de cette déclaration là qui dégoûte un petit peu. Bon, évidemment, on va pas, on n'est pas de la dernière pluie. On sait que si Phil Spencer, il paraissait sympathique et tout, ça reste quand même le boss d'une industrie qui pèse des milliards. Il est davantage là pour satisfaire les actionnaires plutôt que les joueurs, que l'employé en fin de chaîne. Faut pas non plus tomber de notre chaise non plus, quoi. Mm-hmm. Mais évidemment que les promesses n'engagent que ceux qui croient. Mais
ouais, c'est un peu ça, quoi.
Tout de même, quel cynisme, quelle violence, quand même. Tu vois, je pense qu'on peut malgré tout se ressentir là, ce genre de choses.
C'est vrai. Après, perso, moi, les déclarations, et quelles qu'elles soient, et de n'importe quel constructeur, moi, j'essaie de les prendre comme de la pure publicité. C'est-à-dire que si, quand je vais à McDo et quand on me sert mon burger, il ressemble pas exactement à la photo que j'ai vue 15 minutes avant, ça me choque pas. Si je prends ma douche et que finalement je suis pas tout nu sous un palmier, tu sais, comme Tahiti douche, hein, je vais, tu vois, c'est,
en fait,
c'est
sous un palmier.
Non, moi, ma douche, elle est pas comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est, je prends vraiment toutes ces déclarations comme de la pure publicité mercantile. C'est, en fait, c'est les figures de proue d'une marque. Et en fait, ils balancent pas des déclats. Pour moi, ils balancent des slogans, quoi. Après, si tu te dis, ah ouais, mais, je me suis lavé les dents trois fois, j'ai quand même des caries. Ah ouais, mais la pub, elle m'a dit ça. Ah, serait, tu vois, c'est un peu ce décalage-là, quoi.
Ouais, j'entends, ouais. C'est vrai que là aussi, il y a un refrain qui revient, que Microsoft aurait repris la main, en fait, sur l'entité Xbox, histoire de chercher à rentabiliser au plus vite ces investissements colossaux qui ont été faits. Ce qui peut s'entendre, hein. Mais on sait que les cross-corporations comme ça, elles ont aucune patience. On se souvient, par exemple, quand Disney a cherché à rentabiliser immédiatement les 4 milliards qu'ils ont dépensés pour mettre la main sur Star Wars. Bah, ils ont sorti, 5 films en 4 ans et demi, 5 ans, ce qui a dégoûté le public.
Ils ont tué, oui.
Donc, c'est vrai que, là aussi, il faut aussi prendre du recul là-dessus, quoi. Et c'est vrai que, au moment de l'annonce du rachat, donc, pas en amont, hein, on avait, Xbox a créé l'entité, Microsoft a créé l'entité Microsoft Gaming, hein, avec Spencer à sa tête. Donc, tu voyais déjà qu'on sortait du cadre strict de Xbox et qu'ils avaient peut-être une idée aussi, derrière la tête. Mais, tu vois, ceux qui veulent dire, ben voilà, c'est, Satya Nadella, donc le boss de Microsoft qui a pris les choses en main et, Phil Spencer, le silence qu'il y a autour de l'absence de ses déclarations, ça serait un moyen peut-être de dire qu'il est pas d'accord là-dessus. Bah, je trouve moi qu'il y a d'autres moyens de dire que t'es pas d'accord, et notamment rien ne t'oblige à rester en place, hein. Donc
c'est après, vrai.
à un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités et agir selon ses convictions. Si vraiment il est au fond du seau, comme on veut nous le faire croire, déjà, ça nous fait une belle jambe. Hein.
Oui,
et en plus, prends tes responsabilités. Si tu n'es pas d'accord avec la politique qu'on te demande de mener, tu démissionnes de toi-même, quoi. Enfin, pourquoi pas, quoi. Et au global, on se rend compte que l'industrie a pris un tour un petit peu dangereux. Hein. Ils ont été aveuglés par les années Covid, hein, qui ont été très lucratives, qui ont recruté beaucoup de joueurs, qui ont permis beaucoup de croissance. Et au moment du retour à la normale, les mecs se disent « Attends, je gagne moins que les années précédentes, c'est pas normal, quoi. » Et c'est vrai qu'il y a un retour à la normale, mais il fallait peut-être le prévoir. Hein. Ça semblait pas si non plus farfelu à entendre. Et on voit qu'il y a ce côté frileux de l'industrie avec, je le disais tout à l'heure, l'objectif de se recentrer sur les grosses licences, les valeurs refuges, vraiment réduire la voilure, tout ce qui est innovation et tout. C'est plus le moment de tester des trucs, c'est plus le moment de faire confiance à des petits jeunes ou quoi. C'est revenir aux valeurs sûres. C'est quelque chose qu'on entend partout, hein, chez Disney, qui veut réduire la voilure là-dessus. Même Netflix aussi a dit, on veut faire moins, mais faire mieux. Square Enix récemment aussi a déclaré qu'ils allaient stopper un petit peu les jeux un peu intermédiaires, les double A, pour se concentrer sur les grosses licences. Donc voilà, pour eux, les temps sont durs, hein, et je mets des guillemets parce que dans les faits, ce n'est pas le cas. Mais c'est comme ça qu'ils justifient tout ça. Et finalement, cette panique, elle est quelque part auto-provoquée et auto-entretenue, parce qu'il n'y a pas le feu au lac. On l'a dit, hein, Microsoft a plein de thunes, tout ça. Y compris, on disait ce côté resserrement de la société mère, on le voit apparaître quelque part, peut-être aussi chez Sony.
Ça, c'est intéressant.
On a eu des infos sur le nouvel organigramme de la société, avec donc le changement attendu à la tête de PlayStation depuis le départ de Jim Ryan. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a deux personnes qui vont se partager les rênes en haut de PlayStation. Donc, un côté hardware et un côté software, donc avec Raymond Hulse sur le côté software. Et on a le président de PlayStation qui est aussi chargé un peu des comptes. Hein. Je dis le comptable pour déconner, mais c'est le mec qui est pas là pour la passion du jeu vidéo, mais plutôt pour les chiffres, mais qui reste président de PlayStation, en fait. Et moi, là-dessus, j'y vois un petit côté en mode divisé pour mieux régner, tu vois. C'est-à-dire qu'il garde le pouvoir, le mec, il cumule les mandats, c'est-à-dire qu'il est président de Sony, donc il est chargé de tout le côté compta et tout machin. Président de PlayStation, il est aussi président du board, donc il a quand même, il cumule plusieurs casquettes là-dessus, quoi. Et surtout, quand t'as un président fort à la tête de PlayStation qui est la branche de Sony qui rapporte le plus de thunes, ça te crée un contre-pouvoir. Ça crée quelqu'un qui pourrait vouloir s'opposer un peu au président de Sony et avoir presque une indépendance ou quoi. Si tu divises si tu divises le pouvoir et que tu réduis la valeur pour chacun des personnes que tu nommes, quelque part, tu empêches cette résistance d'arriver, quoi.
Ouais.
Donc là-dessus, c'est vrai que moi, je vois dans ce move-là, peut-être aussi le signe que Sony veut reprendre la main sur PlayStation.
C'est vrai, à la différence que Microsoft, c'est le contraire. C'est que la section Microsoft est 100 fois plus puissante que la section Xbox. Et donc, eux, c'est presque... ça fait 20 ans qu'on leur donne pour mission de faire quelque chose dans le jeu vidéo, avec des moyens qui sont super forts. Et peut-être qu'ils ont dit, bon, là, ça fait 20 ans, vous avez essayé plein de choses.
C'est bon, allez les gars,
on a marre.
Peut-être, je sais pas. On reprend la main, ouais. Et tu vois, je parle de frilosité chez PlayStation, mais le PlayStation de 2023, c'est le meilleur chiffre d'affaires ever d'une entreprise de jeux vidéo. Donc vraiment, si on prend que le secteur jeux vidéo, tu vois, qu'on distingue que les branches jeux vidéo, c'est plus de 25 milliards de chiffre d'affaires sur l'année. On n'a jamais vu ça sur une branche jeux vidéo. Même Tencent, qui était le numéro 1, numéro 2 avec Sony, n'a pas fait mieux pour le moment, quoi. Donc ça n'a pas empêché aussi Sony de procéder à 900 licenciements, à fermer il y a quelques années Japan Studio. C'est là où je disais qu'on retrouve un profil un peu similaire à Xbox.
Oui, c'est vrai.
Des licenciements, des studios appréciés, des joueurs qui ferment. On a même eu la fermeture de London Studios cette année, qui était peut-être moins connu, moins apprécié, mais bon, c'est quand même c'est quand même important. Et donc, moi, je me demande comment donner en fait du crédit à la parole de ces dirigeants, quoi. On a vu un Bresser avec le guignol à sa tête, hein, qui a voulu jouer à l'apprenti sorcier, qui a racheté sans vraiment trop réfléchir à s'il pouvait l'absorber. Au final, 1400 licenciements, fermeture, revente de studio à gogo, pour finir par diviser l'entité en trois sociétés distinctes. Enfin, tu vois, on te vend les mecs comme les Mozart de l'économie, hein, pour reprendre une expression. En fait, les mecs, c'est juste des nuls, quoi.
C'est plus Sarko, c'est l'autre.
C'est des mecs qui manquent de vision, en fait. Hein. Et le problème, c'est que les personnes qui prennent ces mauvaises décisions n'en payent jamais le prix. Alors peut-être, tu vois, Jim Ryan, on se posait la question, peut-être que lui a payé le prix, quelque part, de sa vision pour PlayStation, mais ça restera, Jim, tu pars en retraite, hein, t'as droit au petit tour d'adieu, tu vas serrer des pinces, et je pense que le mec, il est parti avec un petit matelas confortable, personne va le plaindre là-dessus, quoi.
Qui ont pas de vision, ou qui ont une vision qui est peut-être détestable, dans le sens où tous ces grands dirigeants, quand ils font des rachats à gogo, c'est qu'ils veulent certaines licences, ils veulent le joyau de la couronne de ce qu'ils rachètent, et ils savent très bien que in fine, ils vont dégager tout ce qu'ils ne voulaient pas. Quand ils ont acheté Activision Blizzard, ils voulaient Call of, et ils savaient très bien que, enfin, quand ils ont acheté Bethesda, ils voulaient Skyrim, Fallout, ils savaient très bien que tout le reste, ça allait dégager, et que, en fait, moi, perso, ce que je pense de Tango, des quatre studios qui ont fermé, je pense que c'était juste prévu depuis très longtemps. Et que quand ils ont signé, ils savaient très bien qu'ils voulaient ces IP et le reste allait dégager. Ils attendaient juste un entre-deux. Tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, ce qui est aussi le cas de Arkane Austin, qui était sur un travail au long cours de Redfall, donc qui était sur du support, du suivi. Tu les dégages au bon moment opportun, mais ça fait 2 ans que c'est, pour moi, ça fait 2 ans que c'est prévu. Et Embracer, ils voulaient la licence Seigneur des Anneaux, ils voulaient Tomb Raider, ils voulaient ce genre de truc. Tout le reste, ça dégage, je pense. Après,
ouais, mais après, moi, tu vois, c'est mon côté naïf, mais je vois le mec de Embracer, Lars Wingefors, qui arrive à la banque pour un prêt en disant, je vais acheter encore plein de studios, je fais, mais mec, c'est toi qui viens de faire n'importe quoi. Je sais que ça n'arrive pas, que c'est moi qui suis naïf là-dessus, mais ces mecs-là qui on voit qu'ils n'arrivent pas à contrôler, l'économie de ce qu'ils veulent faire.
La compta, toi-même, tu sais, tu lui fais dire absolument ce que tu veux. En termes de valorisation, Embracer et ses sociétés, même si t'es dans une mauvaise année où tu fais dire ce que tu veux, et après les emprunts, c'est encore une autre considération, c'est pour ils claquent des doigts, vraiment. Je pense juste que c'est ou ils ont pas de vision, comme tu dis, ou ils ont une vision et c'est cette vision qui est détestable. Dans les deux cas, c'est rien de très glorieux.
Ouais, mais je peux pas croire que pour rester sur Embracer, que le mec s'est dit, je vais acheter tous ces studios pendant 3 ans pour finir par tout bazarder et créer 3 sociétés distinctes dans la fin. Je veux pas croire que c'était son plan, quand même. Ça me paraît trop farfelu, quoi.
Je sais pas. Peut-être, oui. C'est Rockard qui disait, on donne trop de crédit à ceux qui font des plans. Enfin, ou je sais plus ce que c'était exactement. Mais oui, peut-être que c'est juste des gens qui font n'importe quoi et qui ont avec beaucoup d'argent. C'est possible.
C'est ça qui est inquiétant, quoi. En tout cas, moi, ça me pose quand même une question. On va arriver dans la période un petit peu des conférences, hein, de l'ancien de 3, tout ça, c'est comment ça va se passer, quoi. On va voir les mecs arriver tout sourire dans leurs vidéos, dans leurs petites confs. On va voir Phil Spencer arriver avec son t-shirt Banjo-Kazooie qui va vouloir nous vendre la soupe pour les jeux à venir. Enfin, moi je pense que ce soit chez PlayStation ou Microsoft, faut s'attendre à beaucoup d'annonces de jeux parce que ils vont vouloir noyer le poisson, en fait. Et on sait que voilà, tu remets un peu des étoiles dans les yeux des joueurs et on va vite passer à autre chose. D'autant que je pense que la réalité, c'est que beaucoup de joueurs se foutent ou sont même pas au courant de ce qui se passe dans les
je suis bien d'accord, hein. Et puis on a entre guillemets tous la mémoire courte. Là, quand on va être dans l'euphorie de l'E3, c'est vrai que couvrir ces événements, avoir les annonces, vont nous faire oublier tout ce qui s'est passé. Et comme tu l'as dit, le grand public n'a absolument pas, enfin, ont un petit peu écho de tout ça, mais c'est quand même assez lointain, quoi. Et des histoires sordides comme ça de licenciements à tout craint, il y en a dans toutes les industries, il y en a tous les jours qui nous touchent. Peut-être nous, pas directement.
Ouais, mais qui peut-être nous insensibilise aussi.
Peut-être, ouais, c'est vrai. Mais pour faire le cynique à 2000%, mais est-ce que tout ça n'était pas prévu aussi? Tu vois, est-ce que là, il y a une phase de silence de Sony qui était quand même assez, pas inquiétante, mais qui relevait de quelque chose qui était d'étrange, Microsoft aussi, est-ce qu'ils ont pas dit cette E3, c'est là où on va tout balancer, parce que précédemment, dans les mois précédents, on aura fait ces coups de...
Ouais, c'est possible.
C'est horrible, hein, mais je sais pas.
Horrible, après... mais possible, je pense que c'est le sous-titre de la vidéo.
Je sais pas.
Le problème, en tout cas, c'est que l'état de l'industrie actuelle, il va se répercuter durement dans les années à venir, évidemment, en onde qui va se propager, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si ton jeu est réussi, même s'il fonctionne, même si la société pour laquelle tu bosses gagne de l'argent, t'es pas assuré de garder ton emploi. Ce qui, quand même, devient une gymnastique un peu bizarre. On pense même qu'il y a eu des licenciements chez Naughty Dog. Alors, c'est le symbole qui vaut ce qu'il vaut, mais c'était un peu, on imaginait un peu les intouchables, tu vois, les derniers qui seraient concernés par ce genre de choses. Ben non, même eux, ils ont eu droit, quoi. Et donc là, tu te dis, comment, en tant que créateur, tu peux créer un jeu avec cette peur au ventre? Là, on en revient à la déclaration d'Iwata, hein, qui en parlait durant les années de vache maigre de la Wii U et qui disait, ben non, on veut pas licencier parce que comment tu veux demander à ces développeurs de créer des jeux qui sont chargés de donner du plaisir aux gens si eux-mêmes, ils ont peur, en fait, de perdre leur emploi et qu'ils sont pas heureux dans la vie, quoi. Donc, c'est vrai qu'au Japon, on constate quand même une trajectoire assez différente.
Oui.
Dans le sens où on parle beaucoup plus d'augmentation de salaire et même d'incitation à l'embauche. Alors, pas que les Japonais sont plus gentils, hein, mais parce que eux ont compris que il fallait se battre, en fait, pour conserver une main-d'œuvre compétente, sous peine de la voir partir chez le concurrent, voire même à l'étranger, en Chine, en Corée, on en parlait avec Stellar Blade. Ces pays-là, maintenant, sont demandeurs d'avoir des mecs expérimentés qui viennent leur ouvrir la voie. Et résultat, c'est que t'as une équipe de développement de vétérans, par exemple, qui peuvent enchaîner le développement de FF7 Remake et Rebirth dans des laps de temps qui sont finalement plutôt restreints. Et ces mêmes développeurs qui, après avoir essuyé les plâtres sur un premier épisode, vont pouvoir laisser un peu plus parler leur créativité pour la suite. On en a parlé longuement sur Rebirth. Et si bien qu'on se met même à espérer et à rêver que le troisième épisode pourra arriver en 3 ans, tu vois, pour coller à la date anniversaire de FF7. Alors que c'est quelque chose qui peut paraître complètement anormal aujourd'hui de faire un jeu en 3 ans, ce qui n'existe quasiment plus, quoi. Parce qu'aujourd'hui, faire un jeu vidéo, c'est suffisamment long et compliqué sans que tu viennes mettre des bâtons dans les roues aux créateurs. Parce qu'à côté de ça, t'as Xbox qui va se fonder une initiative pour From Scratch pour créer Perfect Dark.
Oui.
Et qui galère, en fait. Et qui va même appeler au secours Crystal Dynamics pour aider. Et finalement, on voit que c'est compliqué, quoi. Si bien que t'as les chefs de projet d'un AAA qui sont, passent d'un studio à l'autre. Finalement, tu sais plus qui crée tes jeux vidéo.
C'est
quoi.
Vrai.
Et là, je vais te poser une question qui est une question piège parce que c'est pas évident d'avoir la réponse. Mais est-ce que tu serais capable de citer un créateur de jeux AAA mis en avant qui aurait moins de 40 ans, peut-être? On parle de, voilà, je te parle de Mikami sur RE1, Camilla sur RE2, Peter Molineux, derrière Fable, t'as Warren Spector qui était là pour Deus Ex, à tort ou à raison, on se rend compte ce que c'est.
Donc ça, c'est à l'époque où eux avaient moins de 40 ans? C'est ça quand,
ouais,
quand ils ont créé les...
Il y a... Désolé, j'ai un chat dans la gorge, je vais boire un coup.
Non, normal. Mais non, c'est pas évident de trouver des créateurs aujourd'hui de AAA qui ont moins de 40 ans. Moi, je pensais à ceux de Tango.
Johan Johannes.
Je sais pas quel âge il a. Et ouais. Celle qui est partie avant, qui était la protégée aussi de Mikami, qui a fait...
Ikumi Nakamura.
Est-ce qu'elle est peut-être était dans cette tranche d'âge, je sais pas.
Mais c'est vrai qu'il y a 20-25 ans, j'ai l'impression que les créateurs étaient mis en avant. Chaque jeu correspondait
vrai,
à
ouais.
un profil qu'on mettait en valeur, tu vois. Et là, je te cite Carmack, Romero, Cliff Bleszinski, Sid Meier, Tim Schafer, Suda51, Fumito Ueda, Neil Druckmann, Cory Barlog, c'est que des mecs qui ont dépassé la quarantaine, quoi. Et je pense Druckmann, c'est peut-être le plus jeune, il a 45 ans ou 46 ans, quoi.
Ouais.
Donc, ça respire plus d'une prime jeunesse non plus, quoi. Et là, on parlait d'Assassin's Creed aussi, mais je sais pas si t'as vu, mais chaque nouvel épisode, t'as droit à sa nouvelle tête qui est mise en avant et qui sera aussitôt interchangeable dès le prochain épisode. On n'arrive plus forcément à mettre un visage sur une personne.
Alors qu'Assassin's Creed a eu des figures de proue.
A eu des figures de proue, et justement, ça a été un souci, parce que quand tu fais de ton développeur une star, comme ça a été le cas, par exemple, de Kojima, ben, quand la société et le créateur, ils sont plus sur la même longueur d'onde, ça clash. Et tu parlais d'Assassin, Patrice Désilé, on a su aussi que ça s'était mal passé en interne.
Oui.
Et du point de vue de la société, quel bénéfice a tiré pour eux de mettre un créateur en avant? Aucun.
Aucun.
Et en fait, on se rend compte que ce qui se faisait à l'époque, aujourd'hui, ne se fait plus du tout, quoi. Et là où c'est problématique, c'est que moi, je vois dans le ciné, dans la musique, dans la BD, en fait, c'est l'artiste qui m'a boussole quand je veux suivre une œuvre. Tu vois, je vais aller voir le prochain film de tel réal parce que c'est lui que je suis sa carrière. Bah, dans le jeu vidéo, finalement, on n'a pas trop ça, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai toujours milité pour une politique de l'auteur forte, c'est-à-dire que il y a une tendance en ce moment qui dit ah non mais faut pas dire que c'est le jeu de machin, c'est le jeu d'une équipe et tout. Ah, évidemment, un jeu ça se fait en équipe, mais la place du créateur, celui qui impulse la vision créative, qui monte la voix, c'est super important. Enfin, personne n'a dit ouais je suis allé voir le Jurassic Park de Steven Spielberg et son équipe, tu vois. Enfin, dans le cinéma on a dit aussi ce truc là, quoi. Alors évidemment que Spielberg, il avait un scénariste, il avait un chef op, et c'est souvent des mecs de talent parce qu'il bosse avec des mecs de talent, mais qui va recruter et aligner sur sa vision à lui, quoi. Parce que voilà, sans un animateur super doué de Kojima Prod, peut-être que l'animation du perso de Death Stranding sera un peu moins bonne, mais sans Kojima, t'as juste pas de Death Stranding tout court, en fait.
Oui.
Donc c'est vrai que moi, ce qui me gêne, c'est que ces gens qui disent c'est pas un jeu, c'est une équipe, quand ils veulent dire du mal en général de quelqu'un, là tout de suite ça devient tiens, le jeu de Michel, c'est de la merde, tu vois. Donc,
c'est vrai que c'est
toujours plus facile, tu vois. Bah, les jeux de David Cage, hein, que j'essaie toujours de défendre un petit peu, qu'on aime ou pas, qu'il y a au moins une vision, mais souvent on va à lui, enfin on parle pas de David Cage et son équipe, hein, quand on veut lui cracher dessus, quoi.
Oui.
Donc cette politique de l'auteur, en tout cas, elle porte ses fruits, notamment chez les indés aujourd'hui, hein. On a eu beaucoup de jeux récents qui ont été faits par une seule personne, hein, comme Balatro, Manor Lords, ou encore Animal Well qui vient de sortir, comme on pouvait avoir du Jonathan Blow il y a quelques années, quoi. Et là, je vais terminer sur un truc un peu nunuche, hein, je m'en excuse d'abord, mais moi j'aimerais juste que l'industrie redevienne raisonnable, tu vois. Je suis pas en train de sortir le petit livre rouge en disant c'est le grand soir, on va les couper des têtes.
Ouais.
Juste de redevenir raisonnable. Et je trouve que c'est un peu idiot parce que c'est un mot qui est galvaudé aujourd'hui, comme quand tu dis quelqu'un, il est gentil, lui, il est un peu brave, quoi. C'est un mot qui a perdu son sens, alors que je trouve que c'est celui qu'on, c'est ce qu'on a besoin un petit peu de devenir raisonnable. Parce que tous ces jeux annulés, en fait, tous ces devs qu'on licencie, au-delà du drame humain qui est indéniable et qui est fort, hein, c'est, le jeu vidéo dans 4-5 ans, en fait, qui sera plus là, quoi. Et comme on l'a déjà dit dans d'autres émissions, là, 2023, une année de ouf. 2024, on voit que c'est déjà plus compliqué. Il est possible qu'on se tape 4-5 années de jeux vidéo, pas terrible, en fait, à venir, quoi.
C'est possible, hein, qu'on soit dans une fin de cycle, comme il peut y avoir des cycles forts au cinéma avec Hollywood. Il y a eu le nouvel Hollywood, il y a eu vraiment des séquences de rupture. Dans le jeu vidéo, on n'a pas trop connu ça. Hormis la crise de 83,
mais c'est... Ouais, après, il y avait les transitions
du machinage
aussi, des fois.
C'était des transitions, mais c'était des sillons qui étaient tracés par un changement de machine, et donc du coup il fallait s'adapter aux technologies, les équipes et tout. Là on est peut-être dans une rupture de l'industrie qui est arrivée à une butée de contradictions, parce que justement comme tu dis c'est pas raisonnable, on veut des jeux toujours meilleur, toujours plus long, mais qui coûte toujours plus cher en licenciant. Enfin, tu vois, il y a plus, il y a plus de mesure.
Là où l'industrie n'a jamais été aussi riche, quoi. Enfin, les acteurs de l'industrie, ces gros acteurs-là, quoi.
Ouais, mais tu parlais d'être raisonnable. Je pense qu'aujourd'hui, et ça, c'est pas lié aux jeux vidéo, c'est qu'il y a, on n'est plus raisonnable dans le sens où on est vraiment sur une économie de croissance. Mmh. Et ça, on l'a déjà dit. Ce qu'on a vécu là en 2023 et là 2024, c'est ce qu'on appelle une correction. Donc, le marché est redevenu stable. Alors, il est redevenu raisonnable, mais il est redevenu stable après, bah, une parenthèse, une anomalie qui a été le Covid et ses conséquences. Et en fait, c'est que dans les chiffres comptables, dans toutes les projections, ben, la croissance, elle doit être continue. Alors, et qui ne prend que trop peu en compte, justement, cette correction. Ouais. C'est là où c'est pas raisonnable.
Ce qui est absurde, ouais.
Ce qui est complètement stupide. Et c'est là où, en fait, c'est dommage. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve que ta chronique, elle est top et je me serais même pas risqué à ça parce que déjà, je comprends vraiment pas tout. Et je pense que pour lire un peu la situation, il faut être aussi froid qu'eux. C'est-à-dire que eux, ils se prennent, enfin tous ces grands dirigeants, ils se prennent pas la tête. C'est qu'ils ont des objectifs de société, de sous-section. Quand même, par exemple, Bethesda France ferme et qu'on trouve ça inadmissible parce que Bethesda c'est Microsoft, Microsoft c'est Xbox, et enfin non, si c'est le contraire. Enfin, ils ont beaucoup d'argent. Tu dis mais c'est incompréhensible. Mmh. C'est juste que en sous-section, ils se disent Bethesda France, ils nous apportent quoi aujourd'hui? Est-ce que la branche Lyon, Londres, pardon, ne peut pas subvenir à tous les besoins de communication de Bethesda, etc., etc. Oui, non. Bam, ça cut. Oui. Et en fait, c'est froid. Et c'est pas les comprendre pour avoir de l'empathie pour eux. On n'a pas d'empathie. C'est juste pour lire la situation. Il faut être aussi froid qu'eux. C'est juste qu'ils cherchent pas à comprendre.
Et ce serait totalement pas si faux. Dans 3 ans, ils vont recréer Bethesda France parce qu'ils auront besoin à ce moment-là.
Exactement.
Sans se dire, on aurait pu garder la société pendant 3 ans.
Exactement. C'est que, en fait, il n'y a pas de considération d'humain derrière. C'est juste qu'on a des gens qui travaillent pour des entreprises et pour des tâches très précises. Et ça cut. Et c'est peut-être triste. Et ce que tu appelles de tes vœux d'être plus raisonnable, c'est peut-être aussi une considération de tout ça de façon plus raisonnable. En tout cas, un grand merci pour cette grande chronique sur Microsoft et l'état des lieux actuel de Xbox. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cette situation. Est-ce que ça vous a affecté? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est pas simple. En tout cas, venez discuter dans le Discord. C'est très chill et il y a de quoi en fait discuter parce que tu peux faire le pavé que tu veux.
Il y a du débat.
Il y a du monde en plus. Merci à tous ceux qui sont avec nous dans le Discord. On va faire une petite pause et avant de passer à Another Crab Treasure, on va faire la petite pause top 3, hein, l'interlude top 3 bien classique et bien connu, qui s'intéresse cette semaine aux jeux que nous avons découverts tous les deux à travers les livres Third. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire, par notre travail, on est amené à soit écrire, soit à lire, à éditer des livres sur des sagas de jeux vidéo, et peut-être que, des fois, on nous a donné envie, ou on avait besoin, l'utilité, ou l'envie de découvrir certains jeux qui, sans avoir fait ce travail-là, nous auraient peut-être échappé complètement, quoi.
Et un top 3 qui nous a été soumis et proposé par Max, qui est avec nous ce mois-ci, et qu'on salue bien chaleureusement. Allez, je te laisse commencer par le top 3, des jeux qu'on a découverts grâce au livre Third.
Mon top 3, c'est Mass Effect. Je suis hermétique ce côté CRPG et tout, je pensais que c'était pas du tout.
C'était toi avant, ça. N'oublie pas.
Et voilà. Et du coup, le fait d'avoir bossé sur lui Mass Effect, alors que j'ai relu un bout de chaîne et tout, ça m'a donné cette envie, justement, de me plonger dans cette saga. Et du coup, j'avais refait le premier à l'occasion de la trilogie HD Remaster, machin. Bon, j'ai pas fait la suite.
Après, gros dossier, quand même. Hein,
à chaque fois que je dis, j'ai fait Mass Effect. Hein, c'est vrai, ça me fait, je trouve ça rigolo.
Genre, t'as pas assimilé que tu l'avais fait?
Ouais, c'est ça, en fait. Parce que c'était tellement, j'ai l'impression que c'était tellement pas pour moi, alors que c'est plutôt cool, en fait.
Attends, maintenant, ça fait Starfield, ça lance Fallout.
Excusez-moi. Je joue en ZQSD, hein.
BioWare, c'était sauce. Hein. Alors, pour ma part, mon top 3, je l'ai déjà évoqué, c'est Alone in the Dark 5, que j'ai découvert avec le livre de Nicolas Denéchaud, très récent et excellent bouquin. Comme tous, hein, on va pas le dire à chaque fois. Il a vraiment su véhiculer un sentiment fort sur ce Alone in the Dark 5 à mon égard, et en fait toute l'ambition de ce jeu démesuré.
Ouais, parce que c'est un jeu cassé,
c'est un jeu qu'à bosser,
mais c'est ça qui t'a plu, toi, un peu.
Toi à l'époque tu l'avais déjà soutenu.
Je suis un des rares aussi à le défendre.
Et ouais, c'est un jeu qui est qu'à bosser, mais plein d'ambition, et quel que soit le secteur du jeu, hein, que ça soit la musique, le gameplay, l'ambition de faire un monde ouvert, etc., enfin, ce jeu est ouf. Et moi, je me suis lancé dans la croisade d'y rejouer et je n'ai pas réussi, hein, parce que c'est la galère. Il faut ou rebrancher des consoles, c'est pas disponible, enfin, en rétrocompatibilité si t'as le CD sur Xbox Series.
Ouais, puis il fallait mieux s'orienter vers la version PlayStation qui avait été retapée, qui avait nécessité un an de plus de dev, qui s'appelait la version Inferno. Mais c'est vrai que c'est aussi le risque quand on découvre des jeux comme ça, c'est que maintenant, comment y jouer aujourd'hui, c'est pas forcément toujours évident.
C'est la galère, donc des remasters, c'est pas mal aussi. Hein. Ton top 2?
Moi, je bosse avec des remasters parce que là, je vais parler de Nier Replicant. Oh. Alors, étonnant, hein, parce que Nier, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup entre nous. Mais effectivement, c'est le bouquin donc de Nicolas Turcev aussi m'a donné envie de m'intéresser à tout ça, parce que évidemment, c'est Nier Automata, un petit peu le phare de la production de Taro Yoko, hein, donc le jeu le plus connu, tout ça. Mais Nier Replicant fait partie de ces jeux aussi qui avaient en germe beaucoup d'idées qu'on retrouvera dans la suite, en fait, et qui peut-être avaient perdu un peu leur statut de précurseur par méconnaissance. Et c'est vrai qu'on débat souvent de Nier, mais c'est plus pour la blague, hein, parce que voilà, moi je trouve que c'est un très bon jeu, hein, mais c'est vrai que pour moi, j'en fais pas un chef-d'œuvre comme certains l'imaginent. Mais c'est parce que c'est souvent ces jeux aussi un peu imparfaits. Je comprends qu'ils touchent particulièrement les gens, quoi.
Mais Max est là ce mois-ci pour le soutenir avec Damien. Et donc du coup, tu l'as refait récemment. Et à l'époque, tu l'avais découvert dans le bouquin.
Il y a eu le remake qui a été fait récemment, et donc j'ai pu le faire. Et bon, je m'étais gâché des surprises, évidemment, parce que j'avais lu le bouquin là-dessus, mais ça m'a confirmé que j'avais bien fait là-dessus, quoi.
Est-ce que le sanglier fait toujours des burns?
Toujours des petits dérapages contrôlés.
Ah, ça, c'est vraiment le meilleur moment. Mon top 2, c'est Assassin's Creed Odyssey et Origin. Alors moi, grand fan de la saga, mais tombé dans les mains avec cette trilogie-là. Bon, toujours pareil, la fausse appellation de la trilogie.
T'as pas aimé le changement?
J'ai pas aimé le changement, j'ai pas aimé la grandeur, j'ai pas aimé le fait que ce soit un monde ouvert RPG, qu'il y ait plus d'assassins, ça m'avait un peu, j'ai un peu décroché. Je sais que toi, tu les apprécies beaucoup. Et voilà, c'est en lisant le bouquin de Thomas Merer que j'ai vraiment redécouvert, réapprécié. Et ça me donne actuellement envie de m'y plonger. Alors, vous vous demandez comment j'ai pu découvrir ça alors que le premier tome...
Il s'arrête à 504,
hein. Je sais pas. Vous le saurez très bientôt, mais voilà, ça m'a beaucoup donné envie.
Est-ce que tu vas faire Shadows Day One ou pas?
Je pense. Oui. Bah ouais, il faut qu'on assure un EX ou un... Non, ouais, il faut... Après, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout? Parce que voilà, là, je ne l'ai pas terminé.
C'est vrai, mais c'est ça le plus dur. Hein.
Je crois que ça a été data miné. Shadows va avoir des DLC déjà ou des...
Ouais, alors, mais ça, c'est le package habituel Ubisoft. Hein.
Alors, dans la vidéo de Momo de Jeux Vidéo Magazine, qui a eu la chance d'aller le voir directement à Québec, le jeu, il parle de 9 zones déjà. Genre une 9 zones énormes. Okay. Est-ce que le DLC, tu vois, si on est déjà sur 2 gros...
J'ai plus envie.
On est sur quelque chose de massif. En tout cas, voilà, mon top 2, c'est Assassin's Creed Odyssey et Origin. Quel est ton top 1?
On parlait de redécouvrir, en fait, les précurseurs, ceux qui avaient les bonnes idées. Bah, c'est Metal Gear 2 Solid Snake. Mmh. Mais ça, je sais qu'on partage ce top 1 tous les deux parce que, bah, comme beaucoup, en fait, on a découvert Metal Gear avec Solid, hein, sur PlayStation. Mais quand on a écrit le bouquin tous les deux, en fait, on a refait, évidemment, tous les jeux et dont les premiers, qui étaient dispo dans la version subsistance de MGS3. Et MG2 Solid Snake, ça a été la claque, en fait.
C'est clair.
Il y avait des idées de ouf, et notamment des idées de ouf de MGS venaient de MG2 Solid Snake.
Il y avait tout, ouais.
Et en fait, le jeu, il était génial, et il repasse trop bien, même aujourd'hui, malgré tout.
Carrément.
Et pour l'époque, il faisait preuve d'une ambition et tout. Et c'est là où on se marrait, on se disait, mais Kojima, il s'est dit, non, mais les gars, personne n'a joué à mon jeu, personne n'a vu mes idées, il n'y a pas moyen, je les réutilise un prochain, quoi.
Exactement la même chose, c'est exactement ce qui s'est passé avec Taro Yoko et Nier Automata, hein. Dans Nier, le premier Nier, il y a l'essentiel des grandes idées de Taro Yoko. Il s'est dit, bah, vas-y, y a pas moyen, je refais Automata. Alors, c'est une caricature, mais c'est un petit peu le cas. Et j'ai un souvenir un peu similaire sur un épisode 2 d'une grande saga qu'on a redécouvert avec nos livres, et livres qu'on a rédigés, mais c'est Zelda 2, qui, alors, pour le coup, est peut-être moins flamboyant, mais, j'en ai eu une bonne sensation, j'en ai aujourd'hui un bon souvenir, parce que c'est Zelda Dragon Quest, en fait.
Ouais, puis c'était un Zelda qui, enfin, moi, perso, me repoussait toujours un petit peu. Donc, et là, le fait de l'avoir enfin fait, tu dis, ok, en fait, bon, il avait son style, on aime, on aime. Pas, mais...
Et mon top 1, alors vous allez dire je triche, mais c'est Warhammer 40 000. C'est pas un jeu, mais j'ai quand même fait Bolt Gun, que j'ai grave soutenu. J'attends beaucoup Space Marine 2 qui va arriver très prochainement, et en fait c'est le bouquin de Thibaut Claudel qui m'a fait découvrir à 100%, je connaissais rien de Warhammer 40 000, et notamment son chapitre univers. Donc je vous laisse imaginer la montagne qu'il a dû gravir pour essayer d'expliquer à des néophytes qu'est-ce que c'est que Warhammer, parce que c'est tout simplement impossible, hein. Il y a des romans, il y a des jeux, il y a des années, des dizaines d'années.
C'est que le Warhammer 40 000, quoi, le côté futuriste, machin. Quoi.
Exactement. Et c'est pas, le livre est passionnant, la façon qu'il a de raconter l'univers est passionnante, ça m'a vraiment, j'ai plongé dedans et ça m'a donné envie d'essayer Bolt Gun, et aujourd'hui je suis à fond, vite, donnez-moi Space Marine 2.
Tu t'es pris d'affection pour le lore, lore que tu connaissais pas.
Alors, quoi. Pas de quoi peindre des petites figurines comme Henri Cavill, mais maintenant je m'y intéresse et je suis justement plus sensible aux propositions jeux vidéo, où là je me dis, tiens, moi j'aime bien le jeu vidéo, cet univers me parle, et hop, je suis tout de suite maintenant plus à même de l'apprécier, quoi.
Et surtout, tu t'es rendu compte que Gears of War était un rip-off de Warhammer 40 000.
Il y a tellement de choses qui sont des rippers de Warhammer. Mais bon, en tout cas, c'est des bouquins qu'on vous conseille, notamment le tien, Metal Gear, il va jouer.
Moi, j'ai une petite mention sur BioShock.
Ok.
Je suis pas forcément le mec qui fait les DLC ou qui a envie de faire les DLC, mais sur BioShock, que ce soit le DLC de BioShock 2, donc l'Antre de Minerve, ou les deux DLC de BioShock Infinite, ils sont exceptionnels, vraiment, au niveau des jeux en eux-mêmes. Et là aussi, pour le bouquin, on a dû les faire et ça a été des belles découvertes à chaque fois, quoi. Donc,
carrément. Moi, j'ai une petite mention rapide sur le bouquin de Nicolas Denechaud encore de Monkey Island. C'est vrai que je n'ai jamais terminé un Monkey Island et c'est vrai qu'en lisant son bouquin, j'ai pu, un petit peu découvrir ce pan du jeu vidéo qui est historique et culte. Donc, ça sert aussi à ça, les jeux vidéo, les livres servent.
Et puis,
à redécouvrir, et découvrir même.
N'achetez pas forcément, les livres des jeux que vous connaissez ou quoi. Ça peut être aussi l'occasion de partir dans un univers complètement inconnu et qui peut devenir peut-être votre univers préféré. Vous le savez pas. Le potentiel est fou, quoi.
En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez découvert des jeux à travers nos bouquins. Est-ce que vous avez acheté des bouquins Third en ne connaissant absolument pas la licence dont il était question, en mode 100% curiosité, en nous faisant confiance, parce que vous aimez bien la façon dont on traite les jeux, vous avez dit, allez.
Ça nous ferait plaisir.
Dites-nous, si vous avez découvert des sagas ou des jeux à travers nos bouquins, et on va relâcher. On avait déjà un peu relâché la pression avec ce top 3.
Mais non, c'est les blagues.
C'est les blagues, c'est les grosses rigolades, avec un jeu qui s'appelle Another Crab's Treasure. Alors, c'est un jeu, je sais pas si t'en as entendu parler avant sa sortie sur le Game Pass.
Par toi.
Alors, c'est un jeu du studio Agro Crab. C'est leur troisième jeu.
Je suis déjà mort de
rire. Ouais. Ils ont sorti Going Under en 2020, qui est un dungeon crawler chelou, et Subway Midnight en 2021, qui est un jeu d'horreur chelou aussi. Donc ils sont déjà, ils sont dans le jeu un peu chelou. Alors pour vous présenter le jeu, je pourrais vous dire tout simplement que c'est un Dark Souls sous l'eau. Et pas besoin de plus d'explications, vous auriez absolument tout compris. Mais attention, subtilité, Another Crab Treasure n'est pas qu'un Souls-like, c'est une parodie. Alors, petit moment définition, pour bien savoir de quoi il s'agit, une parodie, c'est une imitation satirique ou burlesque d'une œuvre sérieuse et respectable. Alors, les Souls, c'est très sérieux, c'est très respectable. Il y avait donc matière à parodier. Mais bon, néanmoins, la parodie dans le jeu vidéo, c'est pas quelque chose qui est très très représenté. C'est souvent par touche, un petit peu, je trouve, ça me fait penser à No More Heroes, et notamment le 3, qui a des petites séquences de JRPG au tour par tour, ou du Smash Bros.
C'est vrai.
Donc, la parodie dans No More Heroes, ça va plus témoigner du côté absurde des jeux de Souda 51. On n'est pas du tout dans la satire. Après, si on ouvre un petit peu le prisme, on va essayer de trouver des jeux qui sont des parodies entièrement. Moi, j'ai retenu South Park, le bâton de la vérité, qui est une parodie de JRPG qui va révéler les tropes, en fait, du JRPG. Il y a Sega Gaga, JRPG aussi, qui va parler un petit peu de manière caustique de l'industrie, mais de l'entreprise Sega. Et un dernier, c'est Conker's Bad Fur Day, qui se moque allègrement de Mario 64 et de l'ensemble des platformers 3D.
Le best.
Est-ce que toi, la parodie dans le jeu vidéo, ça te parle? Est-ce que ces jeux te parlent? Qu'est-ce que ça t'évoque?
Oui, j'ai une idée. Non, parce que j'ai cherché juste avant. C'est vrai qu'il y a Unmetal, le jeu qui parodie carrément Metal Gear, et justement sur ses côtés, en soulevant tous les côtés un peu idiots, machin, mais qui font beaucoup rire, quoi. Mais c'est cool parce que c'est quand t'as un genre ou quoi qui est suffisamment installé que tu peux te permettre ça, et
c'est vrai.
Ça permet même de redécouvrir le genre initial par un autre prisme, en fait. Exactement. C'est plutôt salvateur, quoi.
Et oui, comme tu le dis, il faut un certain temps avant que la parodie puisse un peu émerger de ce genre-là. On le verra tout à l'heure. Mais bon, la question, c'est en quoi Another Crab Treasure est une parodie? Alors, c'est tout simplement une imitation de Dark Souls, c'est un jeu qui reprend ses codes, mais qui va les exagérer ou les réutiliser de façon décalée. Alors, c'est une caricature, on pourrait dire, tout simplement. Et détourner ou amplifier les codes, ça va apporter une dimension qui est satirique ou burlesque à la parodie. Après, pour Another Crab Treasure, on est plus sur du burlesque que sur de la satire, clairement. Et son postulat à ce jeu, c'est tout bête, on incarne un Bernard l'ermite qui s'est fait perquisitionner sans maison par un requin, et le requin, c'est même pas un vrai requin, c'est un balai avec un requin au bout, enfin, c'est un truc un petit peu chelou, c'est très très, c'est très très bête. Et du coup, en fait, l'absurdité du scénario, son décalage avec les Souls, suffit à créer une rupture. Et en fait, c'est bien la superposition des deux univers, les Souls et l'histoire du Bernard l'ermite, qui va créer le burlesque. Car si tu reprends la même histoire que Another Crab Treasure, si tu reprends la même direction artistique, mais tu la poses à un jeu de plateforme 3D, ça choquerait pas du tout. Mais pour un Souls-like, ça perturbe et ça déroute. C'est ça le décalage qui va créer un petit peu l'humour, et c'est tout l'intérêt. Parce que l'absurde, par essence, c'est drôle. C'est la situation qui est absurde. C'est pas ce que le jeu nous raconte. Mmh. C'est ce qu'il en est. Et se retrouver dans Another Crab Treasure avec un jeu qui est difficile, avec des pièges, des gros boss, des monstres qu'on esquive avec des roulades, dans lesquels on débloque des raccourcis, dans lesquels il y a des points de sauvegarde précis, et si tu meurs une seconde fois, bah, tu perds toute ta thune. Bah, t'imagines tout ça, mais pas dans un univers désolé à la Dark Souls, mais dans un jeu coloré façon Bob l'éponge. Cette seule mise en place, seulement, juste ça, bah, ça va créer un décalage qui est super intéressant. Et en premier lieu, bah, parce que c'est marrant. Et ça tombe bien parce qu'en général, une parodie, bah, c'est marrant. Et ça va générer de l'humour de situation. C'est ça qui va créer l'absurde. Un mot que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Alors, je dis absurde, hein, vous pouvez aussi dire burlesque. Et pour donner un exemple, je trouve assez évocateur, on va se tourner vers le cinéma avec d'autres parodies qui sont les Hot Shots. Alors,
c'est les meilleurs films.
C'est un petit peu une époque. Alors, c'est des films qui sont très bêtes, hein, et dont l'inspiration est évidente. C'est Top Gun et Rambo 3. Et alors après, on pourrait dire que les Hot Shots, est-ce qu'ils sont là pour se questionner sur les actionneurs des années 80-90? Peut-être un petit peu, mais c'est surtout et avant tout des films qui sont fun. Nico, les Hot Shots, alors c'était des films de vieux, est-ce que c'est culte pour nous?
Ah, c'est la base.
C'est abusé. Pour nous, c'est vraiment les films.
Je sais pas combien de fois, je pense, j'ai maté.
Est-ce que t'avais capté la satire à l'époque ou t'étais juste dans le...
Non, bon, on comprenait que ça se moquait un peu des codes, mais c'est vrai que la satire était pas forcément très très développée, quoi.
Oui, voilà. La parodie, c'est aussi là pour être...
Ouais, c'était vraiment con dans ses pieds, quoi. Voilà, c'était le but, quoi.
La parodie, cette fois, de Another Crab Treasure, c'est un petit peu aussi comme les Hot Shots, c'est fun pour être fun. Le jeu, il est amusant, l'écriture des personnages, elle est très drôle, très décalée. Et ce qui fait plaisir et ça gâche rien, c'est que on trouve un petit peu un feeling Psychonauts qui est, que ça soit dans la DA ou même dans l'humour, et ça tue, hein, le monde manque de Psychonauts, hein.
Carrément.
Voilà. Est-ce qu'ils vont sauter aussi avec, je sais pas. Donc, Psychonauts, c'est une série qu'on pourrait aussi considérer comme une parodie, je pense, des platformers, de tout ça. Et que ça soit Another Crab Treasure ou les Psychonauts, bah, c'est des jeux qui font de la comédie, de l'humour, et c'est suffisamment rare et difficile pour être souligné, donc. Rien que pour ça, les jeux valent le coup. D'ailleurs, Another Crab Treasure, c'est dispo partout, sur les Xbox, PlayStation, Switch, PC, c'est dispo à 30€, et sur Microsoft Xbox, c'est disponible sur le Game Pass. Donc, franchement, il faut essayer.
Aucune excuse, quoi.
Sachez que les Psychonauts aussi sont dans le Game Pass, donc vraiment, essayez tout ça, ça vaut vraiment le coup. Alors, on l'a vu, une parodie, c'est une caricature qui va souligner les traits spécifiques d'une œuvre. Ici, bah, c'est les Souls. Mais une parodie, ça peut aussi mettre en exergue ces mêmes spécificités, mais cette fois, en les inversant. Alors, ce qui est pratique pour moi, c'est qu'Another Crab Treasure, il fait les deux. Il va exagérer certains points propres aux Souls. Alors, spoiler, hein, vous allez traverser une zone empoisonnée des enfers, mais il va aussi en inverser d'autres, comme un point qui est très connu pour les Souls aussi, c'est la difficulté. Le jeu, Another Crab Treasure, il propose une aventure qui est super corsée à la Souls, et ça d'emblée. Et ce niveau élevé de challenge, en fait, c'est quelque chose qui est assez important pour les créateurs. J'ai lu et vu dans des interviews que c'est quelque chose qu'ils défendent comme une valeur qui est importante. Néanmoins, le jeu, dans son sein, propose de nombreuses options d'accessibilité. Et ça, ça va contrebalancer la philosophie de la difficulté des Souls et de Miyazaki, le créateur de la série. Du coup, dans Another Crab Treasure, tu peux modifier des curseurs, en fait, qui vont rendre le jeu plus simple, et même pire, qui va le rendre jouable par tous. Et le jeu, en fait, il va nous inviter à modifier ces variables avec un message qui est très très bienveillant, c'est très chill, pas de stress, hein, surtout pas de jugement dans cette invitation à rendre le jeu plus simple. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la parodie devient presque méta, car elle inverse un principe fort des Souls, non pas pour se moquer des jeux, mais pour se moquer des joueurs qui ont fait de la difficulté un porte-étendard. Et ici, je parle des gatekeepers, hein, du gatekeeping, ceux qui t'expliquent, hein, qu'il faut jouer les yeux fermés avec une banane et en no hit, sinon t'es pas un vrai. Et en fait, j'ai l'impression que la critique du gatekeeping ici, elle est frontale, parce que le jeu te propose en option de revêtir sur ton dos, t'es un Bernard Lamitte, une coquille qui est en fait un gun géant, un flingue, et donc un objet qui est surpuissant, mais surtout qui est une arme à distance qui est le cauchemar des gatekeepers, hein, parce qu'on ne joue pas aux Souls avec la magie ou à distance. Et cette arme, en fait, c'est vraiment une option d'accessibilité que tu débloques dans le menu en disant non, vas-y, je veux que ça soit simple. Et cette arme, elle one shot absolument tout le monde. Donc, je trouve que là, le message est très clair. Alors, je viens de vous parler d'une coquille. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le jeu, il est une parodie, mais il possède aussi son originalité propre. Même si le fait d'être une parodie, ça représente déjà une certaine forme, hein, de singularité. Alors, les coquilles, c'est le cœur du jeu. Et c'est pour moi sa grande, grande idée. Et l'aventure, elle commence même d'ailleurs sur le vol de notre maison, hein. Donc, le vol de notre coquille, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, on a dans le jeu, chaque coquille qui représente une barre d'endurance. C'est ton bouclier qui est sur toi et qui est, en fait, non permanent. En fait, c'est un bouclier qui va s'user en plus de notre barre de vie. T'as ton, ta barre de vie du bouclier, de ta coquille, et ta barre de vie de vie. Au passage, hein, pas de d'endurance. On est plus à la Sekiro. Tu peux spammer la roulade. Aucun problème. Tout se passe bien aussi. Et donc, chaque coquille, en plus d'être un bouclier non permanent qui va avoir des différences de résistance. Par exemple, si t'as une canette, c'est moins puissant que si t'as un verre à shooter. Donc voilà. Il y a des différences. Et des coquilles, il y en a 69 dans le jeu. Il y en a énormément. Et chaque coquille va posséder, en fait, un pouvoir.
Ok, ah oui.
Et ça, c'est vraiment trop bien. Tu vas avoir, en fait, un système qui va, en fait, te proposer un système offensif et un système défensif. Donc, tu vas avoir en pouvoir, tu peux avoir des attaques, des super attaques, des attaques de loin, tu peux avoir des attaques défensives, tu peux avoir du buff, du debuff. Certaines coquilles vont te redonner de la vie. Donc, en fait, le principe de game design des coquilles est double offensif et défensif, et je trouve ça génial. Je trouve que c'est un pur système parce que c'est aussi une réponse, je trouve, au système de casse des Zelda Breath of the Wild et dans Another Crab Treasure, je trouve que c'est moins frustrant et plus gratifiant. C'est vraiment une pure idée.
Ouais, tu peux pas les stocker. C'est genre, tu as la coquille du moment et tu la changes ou pas.
Exactement, t'as la coquille du moment qui va, en fait, se rompre. Une fois que tu auras plus de défense, tu auras pris trop de shoot, donc tu vas devoir, en fait, en retrouver une très rapidement parce que t'es beaucoup plus sensible sans coquille. Et en fait, tu vas justement varier ta défense, mais tu vas aussi varier ton attaque. Et à force, les coquilles, tu les reconnais, donc tu sais que si t'as besoin de vie, tu vas aller plutôt vers cette coquille-là. Si t'as besoin de tel pouvoir, vers cette coquille-là.
Est-ce que le jeu joue là-dessus en t'imposant parfois certains types de coquilles contraignantes?
Exactement, t'as certains boss où tu vas avoir, alors il est pas très très loin dans la moitié du jeu à peu près, tu vas avoir des sushis. Alors, tu te le mets en coquille, donc c'est très très faible un sushi, mais en fait tu peux, ta super attaque, tu peux la manger, et donc t'a fait regagner de la vie. Là, je vous ai parlé tout à l'heure du verre à shooter qui est en fait très très résistant, mais qui a une toute petite barre, et en fait lui, tu vas casser le shooter et donc tu vas pouvoir faire une super parade. Enfin, t'as plein de systèmes comme ça, à chaque fois double offensif défensif. C'est vraiment, je trouve, la grande idée du jeu. Mais bon, à l'image des coquilles que je viens de vous expliquer, l'ensemble des systèmes de Another Crab Treasure, ils sont très simples et très ludiques. Tu possèdes qu'une seule arme, une espèce de fourchette, hein, que tu vas augmenter.
Ça, c'est un scandale. Pourquoi il se bat pas avec sa pince? Il y a une fourchette.
Il trouve une fourchette. Donc, t'as pas de stats à indexer, hein, sur la force ou la dex. Hein. Tu vas aller chez le forgeron, hein, et tu vas avoir ta petite fourchette. Tu vas aussi avoir un système de passagers. Donc, tu vas prendre sur toi des passagers dans ta coquille. Donc, tu vas mettre une moule ou tu vas mettre un truc. Et en fait, ça va augmenter tes stats.
Okay,
donc, et tu vas avoir plus ou moins de passagers. Des passagers qui vont prendre 2 slots. T'en as d'autres qui vont prendre 1. T'en as d'autres qui vont prendre 3. Donc, il faut que tu joues avec tout ça. Après, tu peux aussi, un dernier petit système, tu peux équiper 2 gros pouvoirs que tu trouves de boss. Tout ça, c'est très simple et très efficace. C'est limpide dans la compréhension, donc on est absolument à l'inverse des Souls. Après, ce que je veux dire, c'est que faire une parodie, c'est aussi se frotter à un genre. Et même si c'est pour le caricaturer, c'est un exercice qui peut se révéler assez complexe. Donc, toucher du doigt le génie des Souls, c'est pas évident. Et le jeu montre parfois quelques limites. Par exemple, t'as des murs invisibles. Ça, c'est très, très flagrant. T'es sous l'eau, t'as des gros murs invisibles. T'as des soucis de stabilité, de caméra, d'équilibrage. Tout ça n'est pas du tout dérangeant, mais ça souligne simplement qu'imiter, et surtout quand on imite le taulier, imiter, c'est pas si facile non plus, quoi.
Oui, bon, après, surtout, j'imagine, c'est pas une équipe non plus gigantesque.
Exactement, tu viens de le souligner, c'est vraiment une petite équipe, c'est que leur troisième jeu, donc ils se frottent déjà aux Souls, mais bon, c'est pas, n'importe qui ne peut pas faire ça, quoi. Alors, je l'ai répété, on est dans la parodie, dans l'humour, mais comme on dit, les meilleures blagues sont aussi les plus courtes, et le jeu, je trouve, ne fait pas de faux bons là-dessus. Il dure pas trop longtemps. Pour terminer le jeu, il faudra un petit peu plus d'une dizaine d'heures, et j'ai même fait quelques boss optionnels, donc peut-être qu'il faut une quinzaine d'heures pour le faire à 100%. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est notable, parce que bon, tu vois, les hot shots, t'imagines, tu te les fais deux d'affilée, et tu fais des films de 2 heures.
Oui, oui, la blague
est un peu court, comme tu dis. Aussi, désamorcer le côté un petit peu solennel des Souls, ça veut pas dire que le jeu, il a pas de propos, ou qu'il n'est pas sérieux. Et même au contraire, en fait, c'est le décalage de la parodie qui peut nous faire comprendre les choses avec plus de force. Et le message d'Another Crab Treasure, il est même assez sérieux, assez actuel. C'est un message qui est écolo. Et comme pour la parodie, il n'y a pas trop de jeux avec des messages écolos ou avec des gameplays qui sont écolos. Il y a Terranil, un jeu de gestion qui est sorti et qui est même dispo sur Netflix gratuitement si vous l'avez. Il y a Under the Waves, que j'ai chroniqué dans le Red Alert 116. Après, il y a FF7, bon, c'est le message, il n'y a pas trop de gameplay, mais bon, des jeux écolo, il n'y en a pas trop. Hein. Il y en a un petit peu, c'est de plus en plus, et heureusement, mais c'est assez rare, un petit peu comme la parodie. Et du coup, pour Another Crab Treasure, c'est chouette, c'est un signe de singularité. Mais le traitement du sujet va aussi se faire par la parodie. C'est ça qui est cool. C'est un jeu dans lequel, en fait, les déchets humains constituent la richesse du monde sous-marin. Et donc, notre richesse à nous, en tant que héros. Et c'est totalement ironique. C'est de l'absurdité de la situation qui révèle, avec le plus de force, en fait, la teneur du message du titre. Tout ce que tu vas trouver, toutes tes coquilles, c'est des déchets. La monnaie du jeu, c'est des bouts de plastique. Et l'ensemble, enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Et un truc qui est intéressant vis-à-vis de la portée écolo du jeu, c'est que ce même message écolo, en fait, il est observable. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il se traduit pas, en fait, dans la quête principale, ou dans nos objectifs, ou même dans le discours des persos, pas du tout. Ce message écolo, en fait, tu le constates dans le décor. Il nous entoure, et en fait, il nous est pas raconté. Et l'idée, je pense, c'est de montrer les conséquences de la pollution des océans plutôt que de nous donner une leçon sur l'écologie. Et je trouve ça super malin. Pas moralisateur et beaucoup plus impactant qu'un sermon. Et cette manière de faire, de montrer sans dire, bah, c'est de la narration environnementale. Et la narration environnementale, bah, c'est l'une des signatures de From Software. Alors, ils ont pas inventé le procédé, hein, mais ils l'ont quand même largement démocratisé. Ici, pas de parodie, mais c'est l'un des savoir-faire des Souls qui est repris pour porter un message écolo. D'ailleurs, quand on tue un boss, il y a un gros message au centre, hein, comme dans les Souls, qui va te dire « pollution éradiquée ». Et c'est encore... Bah, une reprise directe, on est même là sur un emprunt qui n'est pas anodin, mais qui va nous dévoiler bah, sans détour le vrai message du jeu, c'est éradiquer la pollution. Et ça, c'est vraiment bah, comme quand tu tues chaque boss dans les Souls, t'as toujours un message qui est bien significatif par rapport à ton but dans le jeu, et là, c'est bah, éradiquer la pollution.
Surtout, on est arrivé dans une époque où le second degré est plus forcément compris comme tel par certains, quand même, ce qui est toujours un petit peu dommage, quoi.
Alors, vous l'avez capté, hein, je l'ai répété 200 fois, le jeu est une parodie, mais... Bon, c'est une parodie subversive, hein. Son but n'est pas de disqualifier, mais plutôt de dénoncer avec humour et un petit peu de subtilité quand même, tout ça. De la même manière, le but, bah, c'est pas de se moquer des Souls, mais plutôt de détourner leur code pour en rigoler. Mais je pense que le jeu, il a aussi une autre qualité. En fait, par son statut de parodie, il va nous apprendre à apprécier les Souls-like différemment. Perso, je vois même ça comme une réponse aux Souls-like en général, qui sont, franchement, il faut l'avouer, assez nombreux. On l'a vu il y a 2 semaines de ça avec Stellar Blade et les studios coréens. Ben, c'est le genre Souls-like qui est ciblé pour conquérir le marché des consoles. Après, c'est normal. Dark Souls, c'est l'un des jeux les plus influents de l'industrie. Du coup, les Souls sont devenus aussi les jeux les plus copiés. Ce qui est tout à fait logique. Mais bon, par sa seule impulsion parodique, ben, Another Crab Treasure ben, renouvelle un petit peu le genre entier des Souls-like. Et ça... C'est super salvateur parce que, en fait, ça va ouvrir ce genre à encore plus d'expérimentation. Et pas forcément dans l'humour, hein. Il faut y aller, il faut ouvrir ça. Et cette diversification, bah, je pense que le genre en a vraiment besoin. Perso, bah, ça m'a même réconcilié avec les Souls-like parce que ça commençait un peu à me fatiguer. Comme les super-héros dans le cinéma, on dit la super-héros fatigue. Eh ben, est-ce qu'il n'y a pas la Souls-like fatigue? Et tu l'as soulevé très justement tout à l'heure. La parodie, c'est quelque chose qui doit arriver après un certain temps d'exploitation de quelque chose pour pouvoir, en fait, s'en moquer. Ouais. Tu peux pas, je pense qu'une parodie, peut-être des Vampire Survivor-like, c'est peut-être un peu trop tôt.
C'est pas déjà une parodie, Vampire, ça.
Tu vois ce que, non, mais c'est marrant ce que tu dis, mais tu vois ce que je veux dire, il faut un temps donné. Est-ce que toi, t'as eu une fatigue aussi de ces Souls-like et que, bon, je sais pas si Another Crab Treasure, ça te branche, mais,
c'est... Si, franchement, ça a l'air cool. Moi, je suis plutôt chaud parce que tu ce qu'on dit. J'ai pas fait assez de Souls-like pour être saoulé, mais c'est vrai qu'ils ont tous ce côté « Ah, oh, c'est la misère, on va tous mourir, on est tous malheureux. » Là, ça fait un peu de fraîcheur, c'est cool, quoi. Et la parodie, je pense qu'il faut aussi être fan du genre. Je pense que les créateurs sont archi fans de Dark Souls parce qu'ils ont cette passion pour en comprendre les choses.
Mais... Très respectueux.
Ouais, voilà, c'est respectueux. Mais ce qui est cool et ce qui peut paraître contre-intuitif, c'est que c'est fait avec du sérieux, en fait.
Exactement.
C'est-à-dire qu'à la base, c'est un bon jeu, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans la parodie pour faire un truc nul.
Un peu lol.
Ouais, et qui, en fait, n'a pas de fond. Et la vraie bonne parodie, c'est des mecs qui ont compris les codes, qui les détournent. Mais avant tout, ça reste un bon jeu, quoi. Et moi, ça me fait trop marrer parce que les mecs, ils ont pris le truc d'être sérieux, en fait. Ouais. Et, ils poussent en reprenant les codes et ça a l'air hilarant, quoi.
Ouais, ils ont fait les jeux, enfin, ils ont fait le jeu très bien et il y a un sous-texte aussi qui est sérieux. Donc, tu vois, le jeu est marrant, ils ont pris les Souls-like au sérieux et tu te parlais de savoir-faire. Alors, j'ai pas revu les Hot Shots récemment, mais je pense que, enfin, les personnes qui ont fait Hot Shots, c'est le réel que, dont j'ai pas le nom, je l'ai bouffé, mais en fait, il savait faire des bonnes comédies.
Ouais.
Donc, il a pris pour lui, Top Gun, Rambo 3 et tout, il avait ce tempo comique. Et c'est parce qu'il avait le savoir-faire qu'il a pu faire ses bonnes parodies. Je pense que si tu fais si de base tu sais pas faire un bon film d'humour, bah t'es foutu. Là, si tu sais pas faire un bon Souls-like, un bon Souls, bah, t'es cramé aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que toucher du doigt les Souls, c'est compliqué aussi. Donc, ils se sont, avec leur troisième jeu, risqué à faire un jeu de cette ampleur.
C'est un gros challenge.
C'est un gros challenge. Il est dispo dans le Game Pass. Il est malin, en fait. C'est un jeu qui est malin, c'est un jeu qui est bien fait, c'est un jeu qui fait marrer, quoi. Il a vraiment tout pour lui. C'est vraiment un super, super jeu, quoi.
Mais pourquoi s'appelle-t-il Another Crab Treasure si tu joues en Bernard l'Ermite aussi? Deuxième énigme.
Il y a des retournements de situation. Il y a des choses qui se passent. Parce qu'à la base, tu t'es fait perquisitionner ta maison. Parce qu'il y a la reine du coin qui décide qu'il y a un nouvel impôt à mettre. Et donc, on vient te dire, faut que tu payes ton impôt. Alors que toi, t'es sur une plage. T'es à l'extérieur. Et en fait, tu vas sous l'eau. Et donc, du coup, tu te risques avec la peur de l'océan. Parce que tu as cette confrontation avec quelque chose qui est extrêmement dangereux. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui fait très Souls aussi. C'est que tu te confrontes à un truc qui est ultra flippant. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vas sous l'eau. Et du coup, c'est cette crainte-là. Et n'ayez pas crainte aussi d'un jeu qui se passe entièrement sous la flotte. Ça se passe très, très bien. Il y a aussi, enfin, je sais pas si c'est volontaire, ce côté quelque chose qui est sans inertie.
Oui,
tout se passe bien.
Sinon, ça aurait été une galère, quoi.
En fait, voilà, ils ont pris pour eux vraiment plein de choses. Moi, c'est un jeu que je recommande chaudement. C'est pas un grand coup de cœur de l'année. Il sera pas dans mes tops, mais ça fait plaisir.
Un bon souvenir,
un bon jeu. Écoute, voilà, je viens d'éclater ma bague sur sur la table, donc on va faire plaisir avec un petit finish bien musclé. Merci à tous pour votre fidélité. C'est le moment de vous remercier de tous les likes que vous mettez, les coms et tout. Ça fait super super plaisir. Continuez,
continuez.
Faire monter sur
5 étoiles
sur Spotify. Si vous êtes fan de nous sur Facebook, il reste trois likes pour qu'on soit à 10 000. Ça doit faire des années qu'on est à 9 997. Voilà, sur Facebook, allez, faites monter ça, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. Merci à toute l'équipe, merci à Ken, à Damien, à Ludo, à Max qui est là. Est-ce que c'est le moment de parler du fait qu'on fait des podcasts, mais on fait aussi des livres? On vous en a parlé pendant le top 3, il y a du Assassin, il y a plein de trucs qui arrivent.
Ouais, on vous prépare des grosses annonces à venir, une grosse deuxième partie d'année. Et derrière nous même, il y a déjà les sorties du moment, en fait, avec
cette
un
semaine.
Bouquin Vagrant Story, voilà, consacré entièrement à Vagrant Story. Donc il y avait un petit bout dans le bouquin FF12 à l'époque, qu'on a extrait du bouquin FF12 pour le republier, et on a fait un livre entier sur Vagrant. Donc on a les podcasts dédiés sur le sujet, on l'a dit.
Donc vous avez aussi la légende de Final Fantasy XII qui revient, sans le petit Vagrant Story, mais moins cher. Donc là, il a été remis en page, tout nickel. Ça nous a permis de le republier. C'était un monstre qui était très, très onéreux à réimprimer. Donc là, voilà, vous avez un bouquin entier sur Vagrant Story, plus la réimpression de FF12. Là,
on est content.
Les podcasts sur FF12 et Vagrant, du Rémi Lopez à lire et à écouter. Ça fait quand même toujours plaisir. Nico, fébrile, je me tourne vers toi pour la semaine prochaine.
Alors, non, mais il y a plusieurs sujets, parce que moi, il y a le jeu Lorelei and the Eyes of, je sais même plus, parce qu'il a un nom compliqué, qui me chauffe pas mal, mais je pense que j'aurai pas le temps de le faire pour la semaine prochaine. Il y a Hellblade 2 qui sort bientôt, qui nous chauffe tous les deux aussi, mais on fera peut-être un...
Dans 15 jours?
Strike X dans 15 jours.
On va peut-être vous faire un truc énorme dans 15 jours.
À voir, mais c'est vrai que Top Spin, j'avais un peu oublié.
Bah ouais.
Qui s'intéresse encore à Top Spin 3, ça fait un mois qu'il est sorti.
Justement, voilà, on est dans cette effervescence tout le temps de l'actu, une actu en chasse une autre, même un bad buzz, une polémique en chasse une autre. Après, il y a des choses à dire sur Tech 2 aussi en termes de polémique, mais même le jeu en lui-même, moi je suis intéressé de savoir si t'as plu.
Donc on va voir. Je sais pas. Il y aura Red Alert semaine prochaine, mais on ne sait pas de quoi on va parler. Enfin, en tout cas, moi.
Ouais.
Toi, t'as 1000 sujets en stock, hein, comme d'habitude.
Est-ce que vous voulez que je vous parle de Mameda no Bakeru? Si ça vous branche, je peux le faire, mais
faut expliquer un peu ce que c'est, parce que je pense que
c'est
ça drop des noms à jamais.
Un jeu Phil Plus, retour sur on a parlé de Phil Plus, le studio qui fait des jeux pour enfants, donc Princess Peach, je sais déjà même plus comment il s'appelle.
Princess Peach?
Ouais, c'est bah tu vois, je sais plus. Bon, dernier Princess
Showtime,
Peach.
Showtime.
Donc voilà, c'est ce studio Lego Emon, voilà, du platformer 3D bon enfant mais de qualité. Ils ont sorti Mameda no Bakeru, un jeu qui est sorti uniquement au Japon et que j'ai pu terminer.
De l'import dans Red Alert.
Et qui m'a plu. Donc si vous voulez, je peux vous en parler.
C'est un hommage au jeu de plateforme Goemon 64, quoi.
Exactement. Sinon, j'ai peut-être une chronique pour la semaine prochaine sur l'esthétique PlayStation 1 avec plusieurs recos de jeux avec l'esthétique PlayStation 1 qui arrive et un titre qui est sorti cette semaine qui s'appelle Crown Country. Je crois que je l'ai mal prononcé, mais c'est un survival horror avec l'esthétique PlayStation 1 que j'ai commencé et qui est vraiment mortel. Donc il y a peut-être un petit mix à faire.
Ça sent le rétro, quoi.
Alors, plein d'actu. On est en plein dans l'actu, donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si voilà. Petit raid alerte menu pour la semaine prochaine.
Tapez 1
pour Top Spin, tapez 2 pour la PlayStation 1. En tout cas, on se retrouve dans 7 jours. Allez, bye bye.
Bye.